S'il vous plaît, nous recommençons. Alors, les Syriens ont la conviction que Bachir Gemayel s'est bien engagé dans une entreprise de libération du Liban, c'est-à-dire en clair d'expulser les troupes syriennes et la population palestinienne avec l'appui ouvert et effectif d'Israël. Pour eux, c'est le jeune chef maronite qui a lancé la crise de Zarlé, et donc les Syriens sont décidés à en finir. En utilisant des hélicoptères pour prendre le contrôle des hauteurs par lesquelles passent les communications de la ville. À la mi-avril, Zarlé se trouve totalement encerclé, mais les miliciens chrétiens réussissent à maintenir la communication par la montagne, parce que Zarlé est adossé à la montagne, en tente de rouvrir la voie en passant par le mont Sanin, qui surplombe Zarlé. Et à partir de la montagne, les miliciens chrétiens bombardent les positions de l'armée syrienne. Les Américains appellent tout le monde à la retenue, ce qui est habituel chez eux, mais ça ne fait pas progresser d'un iota le dossier. Bachir Gemayel dramatise la situation et travaille à en faire un grand sujet d'actualité internationale. Il fait savoir aux Israéliens que si le mont Sanin tombe, tout le réduit chrétien suivra jusqu'à Jounieh. Les Israéliens hésitent sur la conduite à suivre et pour l'instant intensifient leur raid contre les Palestiniens pour faire plus ou moins diversion. Mais les Palestiniens répliquent en lançant des roquettes sur la Galilée. Et de l'autre côté, les bombardements reprennent entre les deux parties de Beyrouth, ce qui amène la fermeture de l'aéroport international. En cela, il faut ajouter les combats entre Hamal et les pro-irakiens, parce que, bon, s'il n'y avait pas une troisième guerre qui se faisait en même temps que les autres au Liban, ils ne se seraient pas sentis comblés. Et une partie de la direction chrétienne considère que sans appui israélien, le rapport de force devient trop défavorable. Certains sont prêts à prendre le chemin de Damas pour arriver à un accord direct avec Hafez al-Assad. Soutenu par Camille Chamoun, Bachir Gemayel se déclare prêt le 14 avril à entamer le dialogue avec Damas pour trouver une solution en profondeur au problème libanais. À l'ambassadeur de France, Louis Delamarre, il exprime sa rancœur contre les Israéliens qui, depuis deux jours, par des déclarations hypocrites, s'employaient, dit-il, à compromettre les chrétiens après les avoir léchés. Je cite, « De même, il ressentait vivement le message à Damas du président Reagan contredisant les déclarations antisyriennes de M. Haig à Tel Aviv. Le Liban, abandonné de tous, sombrerait dans la désintégration, comme le souhaitaient et la Syrie et Israël. » Selon le plan prêté à M. Kissinger, ça c'est toujours les vieux fantasmes libanais. Les conditions exigées par les dictateurs syriens sont drastiques. La prise de contrôle du secteur de Zarlé par les forces inféodées à la Syrie et en Israël, les militaires sont divisés. Le chef des services de renseignement, le général Sagi, considère que les chrétiens ne sont pas menacés de génocide et que Damas ne travaille qu'à consolider son dispositif de protection. Il interprète ainsi le signal envoyé par les Syriens qui ont établi ostensiblement des emplacements pouvant recevoir des rampes de missiles SAM-6 sol-air, mais qu'ils n'ont pas encore équipés. En clair, si les Israéliens violent leur engagement de ne pas attaquer les forces syriennes au-delà de la ligne rouge, ils ne respecteront pas non plus le leur de ne pas installer de missiles anti-aériens. En revanche, le chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Haytan, est un partisan affirmé d'un soutien direct à Bachir Gemayel. Donc là, vous voyez, le Sanin et les lignes de communication de Zarlé. Un statu quo particulièrement précaire s'installe durant plusieurs jours. Le 24 avril, les hélicoptères syriens débarquent des commandos et s'emparent du Sanin. Tout le réduit chrétien se trouvait découvert. D'urgence, Bachir Gemayel envoie une délégation en Israël chargée d'expliquer qu'en cas d'inaction de l'État hébreu, il sera forcé de composer avec les Syriens. Le gouvernement israélien se trouve prisonnier de son discours de protection des chrétiens menacés de génocide et, plus pragmatiquement, de perdre son alliance avec les forces libanaises. Dans ce cas, l'influence israélienne au Liban ne serait plus limitée qu'au Liban Sud. Le 28 avril au matin, le gouvernement israélien se réunit en comité restreint. Sagui, averti du risque de voir les Syriens installer leur arme de missiles en cas d'action israélienne. Eitan se montre un partisan affirmé de l'intervention militaire. Il s'est fait communiquer par les forces libanaises le descriptif complet du déploiement militaire syrien dans le secteur de Zarlé. Les ministres sont indécis, même ceux qui ont la réputation d'être des faucons. Begin balaye les objections en affirmant « Nous ne pouvons pas en les laisser perpétrer un génocide au Liban ». Immédiatement, Eitan transmet les ordres préparés à l'avance. Un premier hélicoptère syrien transport de troupes est abattu, alors que les ministres discutent encore. Un second l'est en début d'après-midi. Comme prévu, les Syriens répliquent à leur lourde perte par l'installation dès le lendemain de trois rampes de missiles dans la Beka. Les Israéliens minimisent d'abord la situation dans l'attente du retrait immédiat des rampes, puis exigent immédiatement leur suppression, sinon ils auront le recours à la force. L'enjeu immédiat est le contrôle de l'espace aérien libanais. Si Israël le perd, il deviendra un acteur mineur sur la scène libanaise. Le consensus stratégique espéré par les Américains s'est transformé en risque de guerre imminente entre Israël et la Syrie, et la Syrie bénéficiera de l'ensemble du soutien arabe. Dans ce contexte, Israël signifie alors... Pardon, j'ai fait une phrase qui ne tient pas debout, excuse-moi. Dans ce contexte, on voit l'arrivée, comme à chaque montée de conflit, des flottes soviétiques et américaines de Méditerranée à proximité du littoral libanais. Alexander Haig décide immédiatement d'envoyer un émissaire spécial pour traiter de la crise. Il désigne Philippe Habib, un diplomate de haut rang à la retraite, dont la famille est d'origine maronite libanaise. Sa nomination, en fait, il a passé son enfance à New York, il connaissait mieux le yiddish que l'arabe dialectal. Mais bon, ça, c'est un point de détail. Sa nomination suspend un raid aérien israélien retardé jusque-là par les conditions météorologiques. Ni Begin ni Hassan ne veulent de guerre et ont besoin de la médiation américaine, mais les deux mènent une stratégie au bord du gouffre pour obtenir le maximum de gains. Grâce à la crise, la Syrie est redevenue une partie avec lesquelles les Américains sont amenés à parler. En partant du fait même du risque de guerre, la question libanaise s'internationalise. Dans la campagne électorale israélienne, les travaillistes sont obligés de s'aligner sur les positions du gouvernement en ce qui concerne les affaires libanaises. Dans la presse américaine, Begin compare les bombardements syriens au Liban au massacre commis par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Mais apparemment, les bombardements israéliens n'appartiennent pas à cette catégorie. Durant tout le mois de mai, Begin réitère ses diatribes contre l'Allemagne fédérale et son chancelier, parce qu'il y a aussi une crise avec les Européens dans la période. Alors, Radam, le ministre syrien des Affaires étrangères, se précipite au Liban pour essayer de négocier une nouvelle entente nationale libanaise qui passerait par l'abandon de l'alliance entre Israël et les forces libanaises. et un renforcement de la coordination entre le Liban et la Syrie. L'idée est maintenant de remplacer les forces libanaises à Zaharleh par un contingent de l'armée libanaise. Mais Bachir Gemayel rejette le projet d'accord, car la stratégie de Bachir Gemayel est de jouer maintenant l'internationalisation de la crise. Il veut devenir un interlocuteur permanent des Américains, donc il a besoin de la crise pour devenir un interlocuteur des Américains. Sur le terrain, les Syriens renforcent leur présence dans la Bekaa, exercent un sévère blocus de Zaharleh et contrôlent les hauteurs du Sanin. Et les bombardements se poursuivent entre les deux parties de Beyrouth, tandis qu'une autre guerre oppose au sud l'ALS, l'armée israélienne, et les palestino-progressistes. Chacune des parties justifie par le droit aux représailles ces bombardements des populations civiles. Habib et son équipe entament une navette incessante entre Israël, la Syrie et le Liban. Son plan prévoit le retrait des forces libanaises de Zaharleh contre celui des missiles syriens et une restriction imprécise des activités aériennes israéliennes au-dessus du Liban. Il passe par l'Arabie saoudite pour essayer de faire pression sur la Syrie. De son côté, Bachir Gemayel permet la réouverture de l'aéroport de Beyrouth, ce qui lui vaut d'être invité aux États-Unis. Mais il ne peut s'y rendre, craignant que l'aviation syrienne intercepte son hélicoptère, le conduisant à Chypre. Les Israéliens s'abstiennent de survoler la Bekaa, mais perdent plusieurs drones au-dessus des positions syriennes. L'Égypte est désemparée parce qu'elle apparaît tout seule dans son coin. Sadat obtient une réunion d'un sommet avec Begin le 4 juin à Sharm el-Sheikh. On parle du Liban pour la forme, avec une condamnation ferme de la politique syrienne, mais l'essentiel des discussions porte évidemment sur l'application du traité de Washington. On revient aussi à le problème de la composition de la force multinationale dans le Sinaï. Les Israéliens ne veulent pas des Européens à cause de la déclaration de Venise. Il n'est pas question qu'elle soit composée d'Américains. Donc, on va se tourner vers l'Amérique latine pour fournir des contingents à la multinationale. Et Sadat se vante d'avoir obtenu de Begin un engagement de ne pas précipiter un conflit avec la Syrie. Il cherche à montrer que le traité de Washington a réussi à modérer la politique israélienne. Sa déception et sa colère vont être grandes avec Osirak. Depuis le début de l'année de l'été 1980, Israël a lancé une grande campagne internationale contre la volonté supposée de l'Irak de Saddam Hussein de se doter d'un armement nucléaire. La France, qui entretient une coopération forte avec l'Irak dans ce domaine, est particulièrement visée. Un accord a été conclu en 1975 par Jacques Chirac, alors Premier ministre, sur ce dossier du nucléaire. Alors, le dialogue franco-israélien sur le sujet est particulièrement savoureux parce qu'il est fondé sur le non-dit de l'ancienne coopération nucléaire franco-israélienne pendant laquelle les autorités françaises se sont satisfaites des affirmations vertueuses de leurs interlocuteurs israéliens selon lesquels le programme nucléaire israélien n'avait aucune vocation militaire. Autrement dit, les Israéliens accusent les Français de se comporter avec les Irakiens comme ils se sont comportés avec eux-mêmes, alors que cette fois, les Français déclarent avoir pris les précautions nécessaires pour éviter un tel affléchissement du programme nucléaire irakien, ce qu'ils n'ont pas fait avec les Israéliens. Oui, la France n'a pas livré la bombe atomique à Israël parce que la France n'avait pas de bombe atomique. Vous comprenez, le jour où on a fait exploser la première bombe atomique, on était embêté, donc on a suspendu la coopération militaire avec Israël. Mais tant qu'on n'avait pas la bombe, on ne pouvait pas la livrer aux Israéliens. Donc, c'est un raisonnement un peu sophistique. Les Israéliens font allusion à une déclaration de Saddam Hussein en 1975 selon laquelle l'Irak cherche à se doter de l'armement nucléaire. Mais selon Paris, Toutes les étapes du processus nucléaire sont strictement contrôlées, en particulier en matière d'enrichissement d'uranium, et l'Irak, signataire du traité de non-prolifération nucléaire, est de surcroît soumis au contrôle de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. La France de Giscard d'Estaing s'est déclarée particulièrement soucieuse d'éviter la prolifération nucléaire et de ce fait avait mis fin à sa coopération dans ce domaine avec le Pakistan, qui n'avait pas signé le pacte de non-prolifération. À la moindre déviation irakienne, la France déclare qu'elle en ferait de même. Elle ne reconnaît comme élément de prolifération que la seule diffusion des connaissances impliquée de toute façon par les développements de la physique nucléaire. Les Israéliens, eux, peuvent voir que la centrale nucléaire qu'on surnomme Osirak, installée en Irak par la France, est conçue sur le même modèle que la centrale israélienne de Dimona, que les Français ont construite. D'ailleurs, ce sont les mêmes entreprises françaises qui ont construit Dimona et Osirak. Il s'agit d'un réacteur de recherche, copie de celui installé en France à Saclay, et appelé à Saclay Osiris, d'où l'appellation Osirak, du côté français, puisque les Irakiens l'appellent Tammuz. Alors la question est de savoir si ce programme a ou non vocation militaire. Les premiers spécialistes du nucléaire irakien ont été formés dans les universités britanniques et américaines. Ils ont été obligés d'apprendre intensivement le français pour pouvoir bénéficier de la formation en France sur Osiris. Peu après la conclusion du contrat, un différend était apparu. En effet, les Français refusent de livrer de l'uranium enrichi à 80% et proposent à la place un combustible nucléaire enrichi à 17%, surnommé Caramel, ce qui rend très difficile la voie vers l'armement nucléaire. Les Irakiens avaient été obligés de s'incliner et d'accepter en plus une présence permanente de techniciens français sur le site par ailleurs inspecté régulièrement par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Un attentat contre du matériel à destination de l'Irak, revendiqué par une organisation écologique inconnue, a lieu en France, puis ensuite l'assassinat d'un expert irakien ont alourdi l'atmosphère. Il faut ajouter un raid aérien iranien sur les installations nucléaires irakiennes en septembre 1980. L'espionnite règne dans les milieux irakiens et de surcroît, plusieurs des membres du programme nucléaire sont arrêtés sur la base du soupçon de sympathie pour la contestation chiite du régime de Saddam Hussein. Dès la passation de pouvoir le 21 mai 1981, après la victoire électorale de François Mitterrand, le nouveau gouvernement français avait repris le dossier. Claude Cheysson avait proposé l'envoi d'une délégation française en Israël chargée d'expliquer l'ampleur des précautions prises. En Israël, les responsables des services de renseignement s'opposent sur la nature du projet irakien. S'ils considèrent que la finalité est bien militaire, selon toute probabilité, il faudra au moins une dizaine d'années pour qu'il soit opérationnel. Néanmoins, les militaires ont reçu instruction de préparer une opération aérienne contre le site. Selon toute probabilité, ils auraient reçu au minimum des informations de la part de leur partenaire iranien. La prise de décision doit prendre en compte les répercussions régionales et internationales de l'opération. Begin, obsédé comme il est par le risque d'un second holocauste, passe outre les réticences d'une partie de son gouvernement et de l'opposition. Outre le poids de l'histoire, l'absence d'une doctrine de l'utilisation de l'arme nucléaire de la part des Israéliens, du fait qu'ils ne sont pas censés avoir l'arme nucléaire, semble avoir joué. Les responsables israéliens ne paraissent pas avoir compris les logiques de la dissuasion nucléaire développées par les stratèges de la guerre froide, ce qu'on appelle la destruction mutuelle assurée ou le rapport du faible au fort et du fort au faible, la différence entre une première et une seconde frappe, la taille même d'Israël qui fait qu'une attaque nucléaire contre Israël provoquerait au moins autant de pertes arabes que de pertes israéliennes et ainsi de suite. L'ensemble de ces paramètres ne semble pas être pris en considération. La date de l'opération a été retardée du fait de la crise des missiles de la Beka, puis de la tenue du sommet Sadat-Begin. On a accusé Begin d'avoir eu des préoccupations électorales, ce qui est probable, mais il faut bien comprendre que pour lui, il est avant tout l'homme qui évitera un second holocauste. Le 7 juin 1981, 8 F-16 israéliens protégés par 6 F-15 passent successivement par l'espace aérien jordanien puis saoudien avant de pénétrer en Irak. La frappe aérienne est chirurgicale, causant la destruction des installations. L'attaque a eu lieu en fin d'après-midi afin de minimiser les pertes humaines. Un technicien français et une dizaine d'Irakiens sont tués. Cette affaire provoque la colère du monde arabe et de vives protestations internationales. Le gouvernement français condamne ce raid tout à fait inacceptable et Mitterrand utilisera ensuite des termes beaucoup plus durs. Pour l'administration Reagan, c'est un nouveau revers dans l'établissement d'un consensus stratégique au Moyen-Orient, tout en constituant une sévère humiliation pour Sadat. Le président égyptien apparaît comme un complice ou comme un dupe des Israéliens. On suspend temporairement et pour la forme la livraison de nouveaux F-16 à Israël, et le Congrès est obligé de trouver des contorsions juridiques pour ne pas avoir à condamner Israël pour l'utilisation d'armements américains dans des buts offensifs, puisque les Américains ne livrent des armes que pour des buts défensifs. Israël invoque le droit à l'autodéfense et l'article 51 de la Charte des Nations Unies, ce qui est contesté par la plus grande partie des juristes, du fait même qu'il s'agit d'une opération préventive. Pour justifier l'urgence de l'opération, les responsables israéliens affirment que la bombe irakienne aurait été prête dans les 2 ans, ce qui est contraire à toutes les informations disponibles. Begin y ajoute l'existence de fantomatiques installations secrètes qui seraient inconnues des constructeurs français, ce qui confond les installations de Dimona et celles de Zirak. Parce qu'à Dimona, il y avait des installations secrètes, ce qui faisait que quand les experts américains visitaient Dimona, on ne faisait visiter que les installations ouvertes et ne voyaient pas les installations cachées en sous-sol. Mais à Zirak, il n'y a pas d'installations secrètes. Dans les discussions avec les Français, les responsables israéliens sont obligés d'admettre que la méthodologie suivie interdisait de disposer d'uranium enrichi, mais ils accusent les Irakiens de disposer de stocks de plutonium en quantité inconnue. Les Français ont beau jeu de remarquer que la filière de Zirak ne permettait pas de produire d'importantes quantités de plutonium, contrairement aux installations fournies par l'Union soviétique et l'Italie à l'Irak. Or, ces installations n'ont pas été bombardées. Ce que nous savons maintenant, c'est qu'en 1981, le nucléaire militaire irakien n'était encore qu'une virtualité lointaine et loin d'être une priorité pour le régime de Saddam Hussein. Le bombardement de Zirak va accélérer le programme nucléaire irakien et non pas l'arrêter. Les négociations avec la France sur la reconstruction du site échoueront, ce qui conduira à l'abandon de la voie Dimona aux Irak par les Irakiens. Saddam Hussein va multiplier par 20 le budget du nucléaire militaire. Les atomistes irakiens vont collecter toutes les informations disponibles sur l'armement nucléaire que l'on trouve dans la très vaste littérature scientifique internationale, ce qui permettra à l'Irak de se dispenser du contrôle d'un partenaire extérieur et de mener un programme clandestin qui sera très avancé à la fin des années 1980. Loin d'arrêter ou de freiner le projet militaire, l'opération préventive israélienne l'a accéléré et intensifié, tout en le rendant beaucoup moins contrôlable de l'extérieur. Ça, nous le savons aujourd'hui, grâce aux archives irakiennes étudiées après 2003 et les entretiens qu'on a eus avec les atomistes irakiens qui ont expliqué qu'en réalité, c'est après aux Irakiens que le programme nucléaire a été lancé et pas avant. Alors, l'Irak a évidemment porté plainte au Conseil de sécurité. Il y a un consensus général en sa faveur. Les États-Unis décident de ne pas mettre le veto pour essayer de calmer les colères arabes. C'est donc la résolution 487 du 19 juin 81 qui condamne l'éjectement, mais surtout les clauses 5 et 6 sont demande à Israël de placer d'urgence ses installations nucléaires sous les garanties de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Et 6 estime que l'Irak a droit des réparations appropriées pour la destruction dont il a été victime et dont Israël a reconnu être responsable. Alors, pour la clause 5, il est inutile de vous dire qu'elle n'a jamais été appliquée et qu'on l'a complètement oubliée. Et la clause 6, depuis 2003, de temps à autre, le gouvernement irakien actuel dit qu'il faudrait peut-être appliquer la clause des réparations, ce qui met un peu de piment dans la vie diplomatique locale. En Israël, l'opposition travailliste a été contrainte d'applaudir l'exploit militaire tout en condamnant le principe d'une opération qui a été prématurée et irresponsable, les voies d'une solution diplomatique étant encore ouvertes. Begin accuse publiquement Peres de trahir les intérêts israéliens, de donner un coup de poignard dans le dos à la nation. Là encore, le terme est fort puisqu'il renvoie l'accusation que les nationalistes allemands ont adressée aux démocrates et aux juifs allemands en 1918. La prégnance de l'antisémitisme est très forte chez Begin, y compris dans l'usage de son vocabulaire. Certains militants du Likoud en vont jusqu'à attaquer les réunions électorales de la gauche, voire s'en prendre physiquement à Peres, traité de lâche. Ce dernier répond en traitant Begin de menace pour la démocratie et en assimilant le beguinisme au fascisme. Puis, d'un commun accord, les partis politiques décident de calmer le ton. Mais il est maintenant clair que la politique de force et la démagogie financière menée par Begin au Liban, enfin dans les affaires intérieures d'Israël, paye électoralement. Dans les sondages, la droite a rattrapé son considérable retard. La première réaction d'Alexander Haig à l'annonce d'Ozirak a été de renvoyer Philippe Habib au Moyen-Orient. L'Arabie saoudite abandonne sa médiation dans la crise libanaise du fait du trop grand alignement américain sur Israël. Les acteurs libanais restent sur leur position. Damas affirme qu'une attaque israélienne serait l'équivalent d'une agression américaine. Begin, en pleine campagne électorale, confirme l'intention de son pays de détruire les rames de missiles de la Beka si la diplomatie n'obtient pas leur éloignement. Puis ensuite, Begin baisse de ton et affirme avoir utilisé la crise des missiles pour détourner l'attention de la préparation sur le raid sur Ozirak. Il n'en reste pas moins que la question de Zarlé reste toujours ouverte. Les habituels médiateurs arabes préparent un plan de normalisation de la situation au Liban, d'où, évidemment, à chaque fois qu'on essaye de normaliser, on a une explosion de violence. Un compromis finalement trouvé pour Zarlé. Le 30 juin, 600 gendarmes libanais, les forces de sécurité intérieure, pénètrent dans la ville, tandis que les forces libanaises retirent leurs combattants non originaires du lieu. Là, vous avez cette photo, le départ des miliciens. Ensuite, selon le plan établi, Bachir Gemayel adresse une déclaration au président Sarkis par laquelle il s'engage à ne pas ouvrir de collaboration avec Israël. C'est un texte fictif, destiné à ne pas être publié, ayant pour fonction de sauver la face à toutes les parties engagées. Bien entendu, la coopération entre Israël et les forces libanaises se poursuit, mais sur un mode plus discret. Le bilan des affrontements entre le 1er avril et le 1er juillet aurait été de 1120 tués et 4500 blessés sur l'ensemble des fronts libanais. Les élections du 30 juin 1981 en Israël marquent l'ampleur de la radicalisation politique. Le Likoud remporte 37,11% des voix et 48 sièges. L'alignement travailliste, 36,57% des voix et 47 sièges. Plus des deux tiers des Ashkénazes ont voté travailliste, plus des deux tiers des Séfarades ont voté Likoud. La droite est en meilleure position pour former une coalition avec les partis religieux et donc conserver le pouvoir. Selon la règle, le gouvernement en place gère les affaires courantes dans l'attente de la formation d'une nouvelle coalition. Tout en menant les tractations avec les petits partis religieux aux exigences disproportionnées par rapport à leur nombre de députés, le gouvernement Begin reprend les actions préventives au Liban contre les Palestiniens. Les bombardements israéliens commencent le 10 juillet. En riposte, les Palestiniens lancent des roquettes sur Kiryat Shmoné en Galilée. L'escalade monte très vite. Le 12 juillet, l'aviation israélienne bombarde Damour, détruisant une fabrique de réfrigérateurs qui, selon les Israéliens, est un dépôt de munitions, alors que Philippe Imbib a entamé une nouvelle tournée régionale. Le 14 juillet, les raids s'intensifient, tandis que la Syrie perd un avion dans un combat aérien. Les lendemains, les Palestiniens tirent sur Kiryat Shmoné et Nahariya, faisant 3 morts et 28 blessés et d'importants dégâts matériels. Begin promet qu'il n'y aura plus de bombardements sur le territoire israélien. Le 16 juillet, les voies d'accès au Liban Sud sont attaquées, 6 ponts sont détruits. Le bilan est de 32 tués et 92 blessés. Le 17 juillet, l'enfer se déchaîne sur Beyrouth Ouest. Le quartier de Farani, où sont installées les principales organisations palestiniennes, est visé par l'aviation israélienne. Le bilan est de 200 morts et de plusieurs centaines de blessés. Pour Begin, les agglomérations civiles ne sont plus des sanctuaires et c'est la faute des terroristes et des civils, qui composent la plus grande partie des victimes, sont touchés. On se retrouve dans le paradoxe du discours israélien. Les terroristes veulent tuer le plus de civils en utilisant la totalité de leurs moyens. L'armée israélienne limite l'usage de sa force, mais tue en général de 10 à 20 plus de civils que les terroristes. Entre le 1er janvier 1980 et le 1er juillet 1981, 21 Israéliens ont été tués à partir d'actions venant du Liban contre 400 Palestiniens et Libanais, pour 90% des civils selon l'ONU. Tandis que les duels d'artillerie continuent le long de la frontière, Washington expédie d'urgence Habib en Israël. On évoque maintenant une invasion israélienne du Liban Sud et une guerre ouverte entre Israël et les Palestiniens. Mais en même temps, l'action israélienne, la réputation israélienne se dégrade dans le monde. Même aux États-Unis, les amis d'Israël se dissocient de l'attitude de Begin. Selon une nouvelle règle, plus Israël frappe les Palestiniens, plus la nécessité de prendre en considération le facteur palestinien devient impérative. L'administration Reagan bloque tous les jours la livraison de nouveaux avions. Certains évoquent une crise dans les relations entre les deux pays. Le facteur le plus important est de nature militaire. Les bombardements israéliens ne réussissent pas à liquider l'artillerie palestinienne. Même si les pertes israéliennes ne sont pas en proportion avec celles infligées au Liban, le nord du pays est paralysé. Pour la première fois, une partie de la population quitte les agglomérations concernées. Un gouvernement exécutant les affaires courantes et non assuré d'un soutien américain ne peut se lancer dans une nouvelle invasion du Liban. Brusquement, Begin se montre réceptif aux propositions de Habib en faveur d'un cessez-le-feu. Il n'en reste pas moins que l'affaire est difficile à mener. Ni Israël ni les États-Unis ne veulent traiter avec les Palestiniens, ce qui signifierait les reconnaître, mais en même temps, il faut bien qu'ils soient engagés dans le règlement. On passe par l'intermédiaire de la Syrie, de l'Arabie Saoudite et de l'ONU. Habib utilise donc la formule diplomatique d'un cessez-le-feu le long de la frontière israélo-libanaise comme premier pas pour amener le calme dans la région. Le 21 juillet, le Conseil de sécurité, par la résolution 490, appelle un arrêt immédiat des attaques armées et Arafat se donne le beau rôle en étant le premier à l'accepter. L'émissaire américain peut donc annoncer le 24 juillet un cessez-le-feu sans énoncer les clauses qu'il contient. La formule est simple. J'ai informé le président Reagan qu'à partir de 13h30 heure locale, que toute action militaire hostile entre les territoires libanais et israéliens cessera de part et d'autre. De fait, de l'impossibilité d'évoquer les Palestiniens, il n'est même pas question d'une restriction de leur présence au Liban Sud. Bien au contraire, ils obtiennent le moyen de renforcer leur artillerie qui menace le nord d'Israël. En ce qui concerne les missiles de la Beka, les Syriens se sont engagés à ne pas les utiliser et les Israéliens à se contenter de vols de surveillance au-dessus du territoire libanais. Au dernier moment, les Israéliens ont essayé d'imposer l'extension du cessez-le-feu à l'ensemble des territoires israéliens, mais cela a été refusé par les médiateurs. De fait, un attentat commis à proximité de Jérusalem le 29 juillet n'est pas considéré, je cite, comme une violation du cessez-le-feu parce qu'Israël n'a pas signé l'accord avec l'OLP. Israël a seulement accepté une demande des États-Unis en ce sens, à condition que le Liban s'y engage également. Ceci est un communiqué du gouvernement israélien le 30 juillet. Finalement, Arafat apparaît comme le principal vainqueur d'une crise qu'il n'a pas déclenchée. Le bilan de ces 14 jours serait de 450 tués palestiniens et libanais et 1600 blessés contre 6 Israéliens tués et 66 blessés. Le chef de l'OLP obtient le moyen de consolider la présence palestinienne au Liban Sud et est redevenu un interlocuteur acceptable. D'ailleurs, dès le mois d'août 1981, commencent des entretiens discrets avec des personnalités américaines, entre guillemets, indépendantes, c'est-à-dire non officiellement mandatées par leur gouvernement, mais rapportant le contenu des discussions à la Maison-Blanche, mais non pas au département d'État. Haig paraissant trop proche des Israéliens. Autrement dit, il y a un canal de communication qui est établi par l'entourage de Reagan directement avec les Palestiniens, court-circuitant le département d'État. Certains voient dans le cessez-le-feu le début d'un processus débouchant sur une reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP. Le premier à le demander est Sadat, qui appelle de Londres le 3 août à une reconnaissance mutuelle et simultanée entre Palestiniens et Israéliens. À Washington, le 5 août, il est plus précis et appelle à l'ouverture de discussions directes entre les États-Unis et l'OLP. Alexander Haig rappelle l'exigence préalable de son pays, la reconnaissance d'Israël par l'OLP. L'administration Reagan s'engage seulement à soutenir le processus de Camp David, mais s'abstient en fait de toute initiative. Sa priorité est la question du contrat de vente d'avions à l'Arabie Saoudite, pour lequel Reagan s'est directement engagé auprès des membres du Congrès et évidemment la fin du retrait israélien du Sinaï. Begin réussit à former un gouvernement n'ayant qu'une petite majorité de 61 voix sur 120 à la Knesset. La décision essentielle et de confier le portefeuille de ministère de la Défense à Ariel Sharon. Cette désignation inquiète beaucoup de monde en Israël comme à l'extérieur du pays. Le roi Hussein y voit une menace directe pour son royaume, puisque régulièrement, Sharon a appelé à la destruction de la monarchie hachémite pour la remplacer par un État palestinien. Dans le discours d'investiture de 5 août, la ligne dure est particulièrement marquée. Begin met en garde tous ceux qui tenteraient d'empêcher l'armée de l'air israélienne d'effectuer des vols de reconnaissance au-dessus du territoire libanais et affirme qu'au terme de la période d'autonomie de 5 ans, Israël demandera l'annexion de la Cisjordanie et de Gaza qui font partie intégrante de la patrie historique du peuple juif. Alors que Begin, Shamir et Sharon répètent un peu partout qu'Israël ne négociera jamais avec l'OLP, Israël doit faire face à une nouvelle initiative diplomatique arabe. Le 7 août, le prince héritier d'Arabie Saoudite, le prince Fahd, rend public ce qui deviendra dans l'histoire le plan Fahd. Adressé aux États-Unis, il marque l'échec de Camp David. Habile montage des différentes résolutions de l'ONU, le plan comprend 8 points. 1. Retrait d'Israël de tous les territoires occupés en 67, y compris Jérusalem. 2. Démantèlement de toutes les colonies de peuplement établies par Israël dans tous les territoires occupés après 67. 3. Garantie de la liberté de culte et de la liberté d'accomplir les rites de toutes les religions dans les lieux saints. 4. Reconnaissance du droit du peuple palestinien au retour et dédommagement de tout Palestinien ne désirant pas y retourner. 5. Mise de la Cisjordanie et de la bande de Gaza sous la tutelle des Nations Unies pour une période transitoire ne dépassant pas quelques mois. 6. Création d'un État palestinien indépendant avec pour capitale Jérusalem. 7. Reconnaissance du droit de tous les États de la région à vivre en paix. Vous l'avez ici, d'ailleurs, le plan. 8. Les Nations Unies ou certains des États membres se porteront garants de l'application de ces principes. Le point 7 comprend implicitement la reconnaissance de l'État d'Israël. Ce plan est immédiatement rejeté par le gouvernement Begin qui, outre les questions de principe, s'inquiète du rôle de l'Arabie saoudite dans le contexte des discussions au Congrès sur le contrat d'armement, tandis que les réactions arabes et occidentales sont plutôt prudentes. Le 17 août, les États-Unis lèvent le gel sur les livraisons des F-16 à Israël. Il est incapable de dire si Israël a utilisé des avions de fabrication israélienne en Irak et au Liban de façon offensive ou défensive, car ce n'est ni nécessaire ni opportun de le déterminer. Les 25 et 26 août se tient un nouveau sommet Sadat Begin à Alexandrie. L'atmosphère est constructive. L'Égypte s'engage à reprendre dans un mois les discussions sur l'autonomie et à supprimer tous les obstacles à la normalisation. Israël en a fait la condition pour l'exécution de la dernière phase du retrait. Chacune des parties n'a fait simplement que renouveler ses engagements antérieurs, ce qui est considéré comme encourageant par Washington. Le ministère de la Défense israélien a en charge les territoires occupés. Dès son accession à cette fonction, Ariel Sharon a multiplié les déclarations vertueuses. Contrairement à son prédécesseur, dit-il, le prédécesseur c'est Menachem Begin, sa porte sera toujours ouverte aux notables arabes à qui il rendra régulièrement visite. Il va pratiquer un véritable code de conduite distinguant les éléments séditieux des autres. Il n'y aura plus de châtiments collectifs tels que les couvre-feux. Il s'agit de tout faire pour créer un climat favorable à l'autonomie. L'armée israélienne devra se comporter avec courtoisie et considération avec la population, ce qui apparemment n'était pas le cas, puisque Sharon promet de le faire. Ces déclarations de bonnes intentions sont reçues avec scepticisme de la part des intéressés. Sharon proclame aussi son intention d'intensifier la colonisation et l'intégration des territoires à Israël en augmentant la dépendance des populations arabes. Sa première décision est de couper l'arrivée des fonds arabes qui alimentent l'économie palestinienne. Et il déclare qu'il veut installer 1 million de juifs dans un rayon de 10 à 15 000 autour de Jérusalem et de 300 000 dans le reste de la Cisjordanie. Évidemment, le roi Hussein considère que Sharon est son ennemi mortel et donc les pro-jordaniens rejoignent les pro-LP en Cisjordanie pour lutter contre la politique de Sharon. Le 7 septembre, Begin commence une visite officielle aux États-Unis. Les entretiens avec les responsables américains portent sur la question des ventes d'armes. Reagan assure à Begin que le contrat saoudien contribuera à faire participer l'Arabie saoudite au processus de paix. Le président américain semble persuadé que le royaume sera le prochain pays arabe à conclure un accord de paix avec Israël et il trouve en tout cas beaucoup de mérite dans le plan FAD. Le premier ministre s'oppose courtoisement au président et s'engage à ne pas faire campagne sur ce sujet lors de son séjour aux États-Unis. Reagan multiplie les déclarations chaleureuses envers Israël, je cite, « Soyez certains que la sécurité d'Israël est l'un de mes principaux objectifs et que nous considérons Israël comme un allié dans notre recherche de la stabilité dans la région. » Politiquement, ça se traduit par le projet de conclure un accord de coopération stratégique entre les deux pays, intensifiant les relations militaires avec éventuellement un prépositionnement de matériel, voire l'utilisation par les États-Unis de bases aériennes israéliennes. Begin le définit comme une collaboration contre l'expansionnisme soviétique et non contre les Arabes, que Israël a les moyens de combattre seul. Reagan charge son secrétaire à la défense, Weinberger, d'en discuter les détails avec Sharon. Mais Weinberger, qui a pris ouvertement position contre le raid sur Irak, puis contre celui contre l'OLP, a plutôt l'intention d'en diminuer l'importance. Begin, dans ses entretiens avec le Congrès, ne respecte pas l'engagement pris devant Reagan et critique publiquement le contrat saoudien, ce qui met en colère Ronald Reagan. Le président est décidé de montrer qui est le chef. Le 1er octobre, dans une conférence de presse, il rappelle que ce n'est pas l'affaire des autres nations de déterminer la politique étrangère américaine. Et aux sénateurs américains, il explique en privé qu'ils doivent choisir entre leur loyauté envers leur président et celle envers Israël. Avec les autres responsables américains, la question du Liban a été abordée. Il semblerait que les Américains auraient envisagé un plan général de règlement comprenant le redéploiement des forces syriennes dans la Bekaa, le retrait des Israéliens et des Palestiniens du Liban Sud, qui passerait sous le contrôle de l'armée libanaise, ces dernières intégrant dans ses rangs l'ALS. Une telle perspective a tout pour déplaire à Israël. À la fin de son séjour, les responsables américains acquièrent la conviction que Begin prépare une invasion du Liban. Reagan dépêche Haig à New York pour lui demander de s'en abstenir. Begin s'y engage, à moins d'y être forcé par les circonstances. Les négociations tripartites sur l'autonomie palestinienne reprennent le 23 septembre 1981, après un an d'interruption. On se donne pour objectif d'arriver à un accord avant le 26 avril 1982, date de la fin de l'évacuation du Sinaï. En dehors de cette bonne résolution, on se félicite de la décision prise par Sharon de dissoudre le gouvernement militaire de la Cisjordanie et de le remplacer par une administration civile, ce qui, sur le terrain, ne change absolument rien. Le gouverneur civil dépendrait directement du Premier ministre israélien et serait en charge de toutes les affaires administratives gérées sous son autorité par des civils israéliens et arabes. La personne désignée est Menachem Milson, un professeur de l'Université hébraïque de Jérusalem en littérature arabe et ancien conseiller du gouvernement militaire. En pratique, son rattachement au Premier ministre est fictif. Il dépend essentiellement du ministère de la Défense. La volonté de Saddam Hussein de devenir le chef de file des opposants à la politique de Sadat, puis la guerre avec l'Iran, lui impose la nécessité de devenir plus respectable, c'est-à-dire de prendre des distances avec le terrorisme comme moyen politique. Il a ainsi progressivement limité la marge de manœuvre d'Abu Nidal. Ce dernier a compris qu'il fallait retirer ses forces d'Irak, et Abu Nidal est entré en contact avec son ancienne cible, le régime bassiste syrien, et a fait des offres de service. Il est plutôt bien accueilli dans le contexte de la guerre civile qui oppose frères musulmans au régime bassiste. Tout en maintenant des contacts avec l'Irak, le mouvement Abu Nidal reçoit l'autorisation de s'implanter en Syrie et au Liban, le tout sous une stricte surveillance des services de Damas. Ceci se passe au second semestre 1981. Si la Syrie offre des facilités, elle ne fournit pas des subsides. Pour alimenter ses caisses, le groupe Abu Nidal exerce diverses intimidations et chantages à l'attentat à destination des pays du Golfe qui doivent payer pour assurer leur sécurité. Par ailleurs, Abu Nidal poursuit sa guerre contre la direction du Fatah et de l'OLP, considérée comme trop modérée, donc traître à la cause palestinienne. Le 1er juin 1981, le représentant de l'OLP à Bruxelles, Naïm Khader, est assassiné à bout portant par un individu de type moyen-oriental. Khader était un participant actif du dialogue euro-arabe, partisan d'une solution politique comprenant deux États et organisateur des réunions avec les pacifistes israéliens. Il aurait même tenté d'entrer en relation avec l'ambassade d'Israël pour trouver un modus vivendi dans les affaires libanaises. L'OLP a immédiatement accusé les services israéliens d'être les auteurs de l'assassinat. Le 2 août 1981, Abu Daoud, te rappelais donc l'organisateur de l'attentat de Munich, enfin de l'affaire de la prise de Munich en 1972, de séjour en Pologne, est victime d'un attentat où il est grièvement blessé de 5 balles dans le corps. L'intéressé reconnaît parmi ses agresseurs un membre du groupe Abu Nidal. L'enquête ultérieure de l'OLP, fondée sur l'interrogatoire dans les années 1990 de l'assassin, aurait déterminé qu'il s'agissait d'un Palestinien recruté par les Israéliens et infiltré dans le groupe Abu Nidal. De fait, les Israéliens n'avaient pas les moyens de mener des opérations de l'autre côté du rideau de fer. Et il est à noter que la radio israélienne avait attribué les attentats contre Radar et Abu Daoud à des Palestiniens. S'appuyant sur cet élément et d'autres indications du même genre, plusieurs responsables de l'OLP se sont persuadés que, pour le moins, le groupe Abu Nidal aurait été infiltré, voire manipulé par les services israéliens à partir du moment du relâchement des relations entre Abu Nidal et le régime de Saddam Hussein. Certains vont même jusqu'à dire que les dernières opérations, comme les assassinats systématiques des modérés de l'OLP, auraient été commanditées par Israël. Cela ne veut pas dire que toutes les actions du groupe à partir du début des années 1980 auraient été inspirées par Israël, en particulier les attentats contre des personnalités ou des groupes juifs en Europe. C'est ainsi le cas de l'attaque de la synagogue de Vienne le 29 août 1980 qui fait 2 morts et 18 blessés. Mais cette fois, le gouvernement israélien a accusé ouvertement l'OLP et non pas le groupe Abu Nidal. L'élément intrigant reste qu'aucune opération dite de représailles n'a été montée par les Israéliens contre le groupe Abu Nidal. Mais il n'en est pas moins vrai que ce type de représailles n'ont visé que des attaques contre des Israéliens et non celles visant des Juifs non israéliens. Ceci dans la mesure où on arrive à trouver une logique dans cette guerre de l'ombre. Au Liban, Bachir Gemayel a pu finalement se rendre au début du mois d'août aux États-Unis. Il est reçu par des responsables de différents niveaux. On s'accorde sur le principe de tenir un retrait syrien du Liban, mais sans pouvoir en déterminer les modalités. Concrètement, les États-Unis fourniront un financement et des armements aux forces libanaises qui ont maintenant une liaison directe avec la CIA. La conséquence du cessez-le-feu est que le Liban Sud est la seule région à peu près calme durant le mois d'août, marquée par des affrontements entre Hamas et le Parti communiste. Le ministre français des Affaires étrangères, Claude Cheysson, se rend à Beyrouth à la fin août pour marquer la solidité des relations entre la France et le Liban. À cette occasion, il rencontre Yasser Arafat, mais au domicile du premier ministre libanais et non dans un bâtiment officiel, contrairement à Jean Sauvagnargue, 7 ans auparavant, qui avait reçu Arafat à la résidence des Pins. Cette entrevue n'a duré qu'une demi-heure et n'a rien apporté de nouveau, selon les mots mêmes du ministre français. Pour calmer les protestations véhémentes des Israéliens, Mitterrand reçoit ensuite l'ambassadeur d'Israël pendant 1h30, c'est-à-dire 3 fois plus. Le 4 septembre, à proximité de la résidence des Pins, donc la résidence de l'ambassadeur de France à Beyrouth, le véhicule de l'ambassadeur de France au Liban, Louis Delamarre, est bloqué par un autre véhicule, d'où sortent 2 hommes armés qui tentent d'ouvrir la portière verrouillée de la voiture de l'ambassadeur. N'y arrivant pas, les assaillants tirent alors à bout portant 17 coups de feu. Grièvement blessé et transporté immédiatement dans un hôpital par son chauffeur, l'ambassadeur décède 1 heure après. De l'avis général, il s'agit d'une tentative d'enlèvement qui a mal tourné. Si pour la forme, les milieux progressistes accusent Israël, ce qu'on fait toujours au Liban, les soupçons s'orientent soit vers la Syrie, voulant marquer que le Liban est devenu la chasse gardée de Damas, soit vers un groupe chiite plus ou moins commandité par l'Iran, dans le contexte où la France est devenue le lieu d'exil des principaux opposants à la République islamique, puisque le 29 juillet, Bani Sadr et Mahmoud Rajavi se sont réfugiés en France, où se trouvent déjà Chapour Bakhtiar, donc les principaux chefs de file de l'opposition iranienne, sont maintenant réfugiés politiques en France. Cette seconde hypothèse est considérée comme la plus plausible, mais n'interdit pas une complicité tacite des Syriens, puisqu'un poste de l'armée syrienne se trouvait à proximité du lieu de l'incident. Voitures piégées et terrorismes de diverses formes causent des dizaines de victimes et ponctuent un mois de septembre sans grande espérance au Liban. Ces actes sont pris pour des signaux. Leur signification reste difficile à déchiffrer. Alors, en Égypte, on passe à l'épisode connu sous le nom de l'automne de la colère. Face aux difficultés intérieures des régimes bassistes qui tournent à la guerre civile, Sadat s'est donné le luxe de prétendre que l'Égypte est une démocratie. Il a instauré une sorte de pluralisme organisé avec une opposition acceptée du moment qu'elle ne risque pas d'accéder au pouvoir. Le parti majoritaire, le Parti national démocratique, contrôle tous les leviers de l'État et est avant tout un instrument du pouvoir chargé d'encadrer la société. Les accords de Camp David et la rupture avec le monde arabe ont provoqué un grand désarroi dans les esprits qui n'arrivent pas à remédier le discours sur l'Égypte d'abord. La réislamisation encouragée par le régime a profité surtout aux frères musulmans. La presse d'opposition a violemment critiqué la paix avec Israël, dépassant le rôle qui lui avait été imparti. Elle se trouve soumise à une dure répression qui met fin à une époque de relative liberté. La révolution iranienne pousse à la constitution d'une sorte de front d'opposition, regroupant les nassériens, les libéraux et les islamistes, danger intolérable pour le régime. Cette coalition hétéroclite se désagrège en contre-coup de l'élimination des forces laïques en Iran. Mais cela ne met pas fin à la contestation. Les islamistes radicaux multiplient les actions violentes, en particulier au détriment des Coptes, qui protestent vigoureusement. Les affaires d'Ozirak, puis du bombardement de Beyrouth, mettent en danger un Sadat qui, au nom de la raison d'État, ne peut rien faire qui puisse compromettre la récupération de l'intégrité du Sinaï. Et il se trouve maintenant paralysé devant les actions israéliennes. La montée générale d'un intense sentiment nationaliste combinant l'antisionisme, l'anti-américanisme, l'anti-impérialisme et le discours religieux peut laisser croire à la constitution d'une atmosphère semblable à celle qui a précédé la révolution iranienne. La tension confessionnelle dégénère en affrontements sanglants entre musulmans et coptes, et la diaspora copte en Occident se solidarise avec la cause des chrétiens d'Égypte. En visite officielle à Washington en août 1981, Sadat a la désagréable surprise de voir des manifestations coptes de protestation. Il a le sentiment que les États-Unis sont prêts à le laisser tomber comme ils ont abandonné le Shah d'Iran 2 ans plus tôt. L'administration Reagan ne lui accorde pas les mêmes égards que l'administration Carter. Il a fallu 8 mois pour qu'il soit invité à Washington et ne semble pas faire du processus de paix une priorité. L'Arabie saoudite apparaît, au grand mécontentement des responsables égyptiens et israéliens, comme le principal partenaire des États-Unis. Ne voyant pas le fossé en train de se creuser entre l'opposition religieuse et l'opposition laïque, Sadat décide de se lancer dans une épreuve de force. Le 2 septembre 1981, 1536 opposants de toutes tendances sont arrêtés. Le patriarche copte est mis en résidence surveillée dans un monastère. L'ensemble des mosquées passe sous le contrôle gouvernemental. Si le président évoque un vaste complot fomenté par les soviétiques, alors qu'il craint plutôt un lâchage américain, sa perspective est de tout faire pour assurer la fin de l'évacuation israélienne. Son intention est de libérer les opposants après la date fatidique du 26 avril 1982. Il aurait même envisagé, une fois sa mission historique achevée, de quitter le pouvoir au profit de son vice-président, Hosni Moubarak. Un référendum est tardivement organisé le 10 septembre pour approuver les mesures de répression. Selon les résultats officiels, les approbations se montent à 99,45%. Il n'y aurait que 60 273 opposants à la politique de Sadat. Pour l'intéresser, il s'agit essentiellement de frères musulmans qui se sont répandus parmi les jeunes, sèment la terreur dans les universités, terrorisent le peuple et veulent voir un nouveau Khomeini en Égypte. La véhémence avec laquelle Sadat s'en prend aux différents opposants inquiète jusqu'à ses proches. Il a donné l'impression qu'il perd le contrôle de soi-même, de lui-même. C'est la répression qui a donné le signal à un groupe islamiste infiltré dans l'armée. d'organiser l'assassinat de Sadat, doublé d'un soulèvement populaire qui partirait de la ville d'Assiout. Le 6 octobre, Sadat est assassiné lors de la parade militaire célébrant la guerre d'octobre. Le chef du commando est un jeune officier, Khalid al-Islam Bouli. L'état d'urgence est immédiatement proclamé dans le pays. La tentative de soulèvement d'Assiout est rapidement écrasée. Moubarak est désigné comme premier ministre et candidat unique à la présidence par le Parlement égyptien. Et je vous laisserai là pour aujourd'hui.